Ah, les souvenirs de 2002, cette Coupe du Monde au Japon et en Corée. Et cette équipe de France avec Zidane qui se blesse au premier match amical, les difficultés aussi pour marquer zéro but, alors qu'on avait sans doute la meilleure attaque du monde à cette époque-là, avec les meilleurs buteurs de tous les grands championnats. Il y a des petites aires de Coupe du Monde 2002 là, qui traînent autour de nous pour cette Coupe du Monde 2022. On va l'évoquer tous ensemble, évidemment. Mais avant ça, on va aller retrouver au Qatar, en direct de Doha, quelqu'un qui avait vécu cette Coupe du Monde 2002. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Ça vous rappelle aussi des souvenirs cette musique ?
Oui, en effet. Ça me rappelle une équipe de France qui avait les trois meilleurs buteurs des grands championnats en Europe et qui n'avait pas réussi à marquer le moindre but, comme vous l'avez dit. Ça me rappelle de magnifiques souvenirs en termes touristiques et footballistiques, mais pas pour l'équipe de France, évidemment. Et puis il y avait eu l'affaire du Romane Conti avec le bon président Simonet. Pour clore tout ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ah, ça avait été un bien beau scandale pour boucler cette Coupe du Monde.
Ce qui, en plus, nous donne un peu de grain à moudre. C'est vrai que le président aussi d'aujourd'hui, Noël Le Graët, est lui aussi avec quelques difficultés. Mais d'abord, parlons un peu du Qatar, parlons un peu de Doha. Faites-nous rêver, Jean-François Pérez, à quoi ça ressemble ?
Alors écoutez, on est en train de marcher là avec Thierry de la Morinerie, après une très longue journée évidemment passée dans l'avion, les douanes, etc. Et là, on se retrouve sur la corniche, Al-Corniche, comme on dit ici, Al-Corniche. Et il fait chaud, il fait très humide, il fait, on va dire, 28-30 degrés encore là, il est 22 heures ici. Ce qui frappe donc, hormis la chaleur et l'humidité, ce sont les lumières, hein, je pense qu'on peut dire ça, et le gigantisme de cette mégapole. Des lumières, il y en a partout, de toutes les couleurs, on se croirait dans une espèce de Las Vegas x100, de parcs d'attractions, si vous voulez, avec des dizaines, des centaines de gratte-ciel partout. Là, on est juste devant, avec Thierry, ce qu'on appelle la skyline, avec des dizaines de gratte-ciel bleu, vert, jaune. Enfin, le paysage est assez surréaliste, assez exceptionnel. Et pour le reste, c'est une capitale, je vous le disais, qui est une vraie mégapole, qui s'étend sur des dizaines de kilomètres, avec des routes, des autoroutes, des voies rapides, 2x3, 2x4, 2x5 voies. C'est assez incroyable quand on est européen de venir ici. On a l'impression de voir le futur et en même temps, on a l'impression de voir une tradition également qui est très présente avec beaucoup de religions, beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui sont habillées avec les habits traditionnels que vous connaissez. Donc, c'est une espèce de choc des époques, de choc des cultures. Mais la carte postale là, que j'ai devant moi et qu'on va vous envoyer avec Cyril pour nos comptes de réseaux sociaux d'Europe 1 Sport, cette carte postale est assez fantastique, il faut bien l'avouer.
Et c'est dans ce contexte, dans ce décor que les Bleus sont arrivés il y a quelques minutes du côté du Qatar et du côté de leur hôtel.
Oui, exactement. Un vol sans problème. Ça fait à peu près 3 heures maintenant qu'ils ont atterri ici à Doha. Alors eux, ils ont eu moins de problèmes à la douane, etc.
Pour récupérer leur
et monter dans le bus. 50 minutes après, ils étaient à leur hôtel, un complexe de luxe absolument magnifique, qui est à, on va dire, une vingtaine, trentaine de minutes du centre de Doha et à peu près autant du centre d'entraînement qui sera le leur. Bonne arrivée donc pour les Bleus ou ceux qui en restent. Et là, ils ont dîné. Avant cela, ils ont fait une petite séance d'étirement eux aussi pour laisser passer les 6-7 heures de vol qu'ils ont subi entre-temps. Et puis demain, on est déjà, j'allais dire, dans le dur, dans le grand bain, parce que demain, c'est la première conférence de presse ici à Doha. Et donc, Didier Deschamps officialisera évidemment l'arrivée de Randal Kolo Muani pour remplacer Christopher Nkunku. Nous en dira sans doute plus sur l'état d'esprit de ce groupe qui est quand même malmené, hein, avec tant de blessures, tant de forfaits ces dernières semaines, beaucoup de malchance quand même dans tout cela. Et puis là-dessus, l'entraînement qui sera ouvert au public. On y sera, bien évidemment. Ce sera en fin d'après-midi pour nous ici, milieu d'après-midi pour vous en France. Et on sera là pour le raconter avec Cyril de la Morinerie et avec Jacques Vendroux qu'on attend cette nuit parce que le pauvre Jacques, il a un petit souci. Il manquait un numéro dans son visa, un petit numéro, un simple numéro. Et cela a fait qu'il n'a pas pu embarquer avec nous ce matin. Impossible. Les autorités qatari étaient absolument inflexibles. Et donc, il a dû attendre le vol qui est en train d'arriver dans le golfe Persique. Il sera avec nous vers minuit, une heure du mat. Je rassure sa famille et ses amis. Tout va bien pour Jacques Vendroux. Et demain, vous l'entendrez sur l'antenne.
Même Jacques Vendroux n'a pas de laissé-passer pour le Qatar. C'est incroyable.
C'est dingue.
Même lui n'a pas le droit au...
Il va être de bonne humeur.
Ouais. On vous laisse l'accueillir.
Et il en est fort marri.
Ah oui, je l'imagine bien. On vous laisse récupérer, voilà. On vous laisse prendre en charge Jacques Vendroux. Vous saluez Cyril de la Morinerie et je sais qu'il y a eu aussi quelques
petits. Cyril, vous embrasse tous.
Voilà, il y a eu quelques petits soucis au départ ce matin aussi. On ne racontera pas tout ici.
Absolument.
Mais vous saluez évidemment très très fort Cyril. C'est ça qui compte. On vous laisse prendre vos marques et on vous retrouve demain avec grand plaisir. Merci Jean-François Pérez.
Merci à vous, au revoir.
À très vite.
Au revoir.
À très vite en direct du Qatar. Voilà pour cette petite carte postale qu'on voulait vous offrir ce soir en début d'émission. Oui, beaucoup de péripéties comme vous le voyez et c'est les aléas des voyages et voilà pour les médias avec tout le matériel que l'on doit emporter dans ses valises du côté du Qatar. Il fallait montrer vraiment patte blanche. Mais revenons à nos discussions, revenons à nos thèmes du jour et revenons surtout à cette équipe de France qui nous fait penser, ou en tout cas c'est mon premier avis, c'est pour ça que je vais vous poser la question, à cette équipe de France de 2002 finalement, avec ces blessés qui tirent la patte, entre les joueurs qui ont déjà déclaré forfait, les inquiétudes pour Karim Benzema, alors qu'on a quand même une attaque sur le papier qui quand même incroyable, avec un ballon d'or, avec un joueur à qui on prédit le ballon d'or, avec un Olivier Giroud qui est exceptionnel, d'ailleurs on parlera tout à l'heure de l'attaque des Bleus, des soucis défensifs, une préparation ratée sur la dernière compétition, si on peut un peu aussi le rapporter à 2002, et puis des affaires à la fois pour la fédération, pour qui entoure Didier Deschamps, qui est finalement un peu le Roger Lemaire de l'époque. Est-ce que tout ça ne nous prédit pas, Sacha Bekerman, finalement le même scénario que 2002, avec une élimination à la fin du premier tour ?
Il y a quand même une différence avec 2002, c'est que la France n'est pas championne d'Europe.
C'est vrai.
Contrairement à 2002.
Mais elle défend son titre de championne du monde.
Elle défend effectivement son titre, mais est-ce qu'on n'a pas un peu moins d'attentes envers l'équipe de France vu l'année dernière et vu tout ce qui entoure effectivement la sélection, c'est-à-dire les blessés en cascade, Karim Benzema qui a priori n'est pas non plus au fond du trou mais qui est quand même pas à 100%.
La phrase exacte que prononce Karim Benzema aujourd'hui dans les médias, c'est « j'avais des douleurs mais pas de grosses blessures ».
Ce qui est
je vous laisse
rassurant.
Avec cette phrase-là. Vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites les théories que vous voulez.
Rassurant.
Mais c'est pas. C'est, oui, ça ne veut pas dire grand-chose.
Ça n'apporte pas grande garantie, effectivement. Mais bon, le fait est que Karim Benzema va arriver à la compétition. Il ne sera pas à 100%, on le sait. Tous les plans de Didier Deschamps ont été contrecarrés parce que Didier Deschamps, dans sa tête, c'était j'arrive avec 26 joueurs qui sont tous à 100%, qui. Personne n'est blessé, etc. etc. Après, est-ce qu'il faut mettre la charrue avant les bœufs et se dire que ça va être une Coupe du Monde qui va être compliquée pour l'équipe de France Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, honnêtement, encore une fois. Même si ce n'est pas les joueurs que Didier Deschamps espérait, il y a quand même de la qualité sur le terrain. C'est une équipe qui sait à peu près jouer ensemble. Donc, pourquoi pas ? Enfin, je nous trouve un peu dur d'entrée de jeu, en fait, envers cette équipe de France.
Oui, des fois, il faut aussi être un peu chauvin, c'est vrai, mais Juan José Dorado, qui est donc du coup vraiment neutre dans cette histoire, est-ce que cette équipe de France fait quand même rêver ? On n'a pas l'impression qu'on va vibrer avec cette équipe de France.
Alors, elle ne fait pas rêver. C'est la première des choses. Les favorites, oui, parce qu'elle est championne du monde, parce qu'il y a la résilience dans ses joueurs, ils sont capables d'aller au-delà dont on les attend, mais elle ne fait pas rêver parce que ces derniers mois, ces deux dernières années, ils n'ont pas développé un jeu magnifique qui fait rêver. C'est vrai qu'il y a tous les contretemps. C'est vrai qu'il y a 98 champions du monde sortis en 2002. Là, vous permettrez que je vous rappelle aussi l'Espagne, champion du monde en 2010, et humiliée en 2014. Donc, il y a aussi cette malédiction un peu de la championne du monde qui s'est fait maltraiter lors du mondial qui suit après. Mais j'ai confiance quand même dans cette équipe parce qu'elle a quand même un avantage, c'est qu'a priori, elle est dans un groupe
abordable.
Plutôt, voilà, abordable. Est-ce qui peut lui permettre effectivement de se ressourcer un peu et d'arriver en huitième de finale, peut-être avec une équipe différente, peut-être avec un Benzema qui est parti d'une fatigue musculaire à une gêne et puis à une douleur. Donc on verra comment ça arrive. Mais elle ne fait pas rêver, mais elle reste quand même favorite.
Juan José parlait du jeu, si je puis me permettre, en 2018, le jeu de l'équipe de France n'est pas étincelant. Hein.
Oui.
L'équipe de France,
surtout en phase de poule.
Voilà, surtout en phase de poule. Ça s'enclenche un peu après, mais on n'est quand même pas sur une équipe qui se projette énormément, qui est étincelante. Et l'équipe de France est championne du monde.
Et tout ça se déclenche avec un France-Argentine qui pourrait se reproduire en huitième de finale, Clément Pernia, si on sort des poules.
Ça voudrait dire qu'on finirait deuxième et que l'Argentine premier ou inversement.
C'est ça. Et en même temps, on a le Danemark dans notre groupe qui nous a quand même battu deux fois.
Et eux, ils ont le Mexique et la Pologne.
Pendant la Ligue des Nations.
Et on sait très bien que le Mexique, c'est assez pénible à jouer. À chaque Coupe du Monde, c'est très fort. La Pologne, bon, c'est qu'il y a Lewandowski devant.
Est-ce que vous êtes optimiste ou pas ?
Non, pas très optimiste. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a la même lecture à l'étranger de l'équipe de France que l'on a en France ? Parce que nous, on est assez pessimiste.
On a la ville d'Abraham Rosado. Voilà, c'est un exemple.
Non, a priori, on est favori pour les étrangers, pour les Espagnols. Donc, peut-être qu'on est trop pessimiste chez nous. Peut-être qu'on voit tous les maux qui frappent cette équipe. Et moi, il y a quelque chose qui me marque quand même, c'est que ce qui fait la force, et Sacha l'a dit, c'est vrai qu'on ne déployait pas un jeu flamboyant. Mais ce qui faisait la force de l'équipe de France, c'est que Deschamps pouvait s'appuyer sur des piliers à chaque ligne. Et ces piliers, ils ne sont plus vraiment là. Pogba n'est pas là en milieu. Griezmann, ce n'est plus le Griezmann de 2018. Varane, il est sur une jambe. Et ce sur quoi on pouvait encore se rappuyer, à défaut d'avoir un bon jeu, à défaut d'avoir une ambiance au beau fixe, à défaut d'avoir des joueurs à 100%, c'était ses leaders, c'était ce groupe. Et même ça, on ne l'a pas. Donc, en plus, je suis de naturel superstitieux. On a été champion du monde en 1998, on l'est en 2018, on s'est planté en 2002. 2022, ça s'annonce pas très bon.
Oui, les chiffres sont pas à notre faveur.
Donc, moi je suis plutôt pessimiste. En plus, il y a trop d'incertitudes autour de ce groupe. La plus grosse, c'est Benzema. Donc, moi, je suis pas optimiste. A contrario, ce qui peut un peu nous sortir du lot et nous rassurer, c'est que on attend finalement plus grand chose presque. J'ai envie de dire de cette équipe. Peut-être qu'à l'étranger, on voit encore la France de Benzema, de Mbappé, etc. Mais nous, en France, quand on interroge les gens, moi, j'en parle souvent avec des gens qui sont pas dans le foot. Et ils ne s'attendent à rien de cette équipe de France. On est assez déçus ces derniers mois. Alors, quelque part, peut-être qu'on a tout à gagner.
Et au final, il n'y a presque pas d'engouement. C'est presque terrible à dire, mais il n'y a pas d'énergie pour l'instant autour de cette équipe de France, Mathieu Dumas. Je sais, on en a discuté. Vous êtes plutôt optimiste. Alors, j'allais dire... Je sais,
je vais pas
trahir de secret. Vous avez œuvré à un moment donné pour la Fédération Française de la Loose.
Au diable, la FFL pour cette Coupe du Monde.
Elle a quand même, c'est l'équipe de France, une bonne tête d'affiche de cette Fédération Française de la Loose, non ?
C'est vrai qu'il y a quelques similitudes avec 2002, on ne va pas se le cacher, mais je trouve que les deux situations sont quand même bien différentes. Comme ça a été dit, 2002, on est certes champion du monde, de 98 pardon, on est certes champion du monde, mais on est aussi champion d'Europe, donc on arrive un peu avec ce statut de tout puissant, là où depuis un an et demi, deux ans, il n'y a pas grand chose qui va, quoi. Donc oui, je suis d'accord avec Sacha, les attentes sont bien moindres, on débarque évidemment avec moins de certitude, donc personnellement, on va dire, je ne serais pas déçu s'il y a un parcours... Alors évidemment, si on ne sort pas des poules, ça serait un gros échec. Mais non, je ne vois pas trop de similitudes avec 2002, parce que si on reprend d'ailleurs la blessure de Zidane, elle intervient à 5 jours du premier match.
En France-Corée, exactement, en match amical.
Zidane avait été un pilier de l'équipe de France en 2000 et en 98. Or Benzema, pour le coup, la France a gagné sans lui.
La France a gagné sans lui, exactement.
Benzema a une importance bien moindre.
Mais c'est le Ballon d'Or. C'est quand même le joueur sur qui on mise le plus finalement en attaque.
Mais là où ce serait un énorme échec quand même, malgré tout, il faut, quand on est lucide, c'est que quand on regarde l'équipe sur le papier, Benzema, Mbappé, Griezmann, en milieu, on a le numéro 6 du Real Madrid, Tchouaméni, on a Rabiot, on a Varane, on a la défense, on a la charnière du Bayern Munich, on a Hugo Lloris. Ailleurs, à l'étranger, ça serait perçu vraiment comme un fiasco si la France chutait en poule ou en huitième de finale. Parce que sur le papier, nous, on connaît les maux et les difficultés de l'équipe de France. Mais sur le papier, ça reste une équipe de dingue quand même. Hein. Notamment l'attaque. Donc, a priori, ça resterait un échec.
Après, c'est une équipe qui a très peu d'automatisme. C'est une équipe de papier, j'ai l'impression. Là,
c'est la définition d'une sélection aussi, ça, pour le coup.
Oui, c'est sûr. Mais je pense que la préparation a été difficile. Mais pour le coup... Les blessures, notamment au milieu de terrain de Pogba, Kanté, elles sont connues quand même depuis un petit moment. Donc, j'ai le sentiment que Deschamps a pu s'y préparer. Et alors oui, l'équipe de France n'est pas à 100% et pas avec certains cadres. Mais j'ai le sentiment que Deschamps sait avec qui il allait y aller il y a déjà quelques semaines. Alors, les derniers forfaits, c'est vrai qu'ils ils sont un peu embêtants, handicapants.
Même la blessure d'Nkunku, voilà, c'est une blessure à l'échauffement, à l'entraînement par un autre joueur français. Enfin, ça fait vraiment les péripéties qui se succèdent. Quoi. C'est quand même incroyable.
Oui, juste, c'est que vous ne vous rendez pas compte que depuis l'étranger, on a eu le même problème. C'est-à-dire que vous dites, voilà, ça a été compliqué d'aller en Coupe du Monde, mais ça a été compliqué pour l'Espagne, ça a été compliqué pour le Portugal, ça a été compliqué pour beaucoup d'autres pays. Donc en fait, les problèmes que vous retrouvez ici, la plupart des pays l'ont retrouvé aussi. Après, c'est vrai, vous avez sur le papier une équipe d'individualité qui fait rêver. Maintenant, il va falloir prouver que c'est un collectif, que c'est une équipe. Bon, ça, c'est le rôle de Didier Deschamps, de trouver la clé magique. Mais vos problèmes sont aussi les problèmes de beaucoup d'autres sélections qui sont aujourd'hui au Qatar.